Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à l'antenne de Radio Graphite pour cette deuxième d'Expression Collective, l'émission de l'association Espace Citoyen. Toutes les deux semaines et pendant une heure, nous vous faisons voyager, découvrir le monde, débattre et réagir. Cette semaine, on va parler bouffe, philo, fusion, AG, on va débattre, s'écharper, s'interpeller. Alors attachez vos ceintures car Expression Collective numéro 2, c'est parti. Et on compte bien montrer que nous aussi, nous pouvons prendre la parole et vous la donner. Vos réactions sur le hashtag ECUTC. Bienvenue, je le disais, dans cette deuxième d'Expression Collective, l'émission de l'association Espace Citoyen. Toutes les semaines, donc, nous partons de l'association Espace Citoyen. J'ai pas fait d'erreur, là, pour... excusez-moi, j'ai l'impression de faire une erreur. Non, mais c'est ça, l'émission de l'association Espace Citoyen. Après un long brainstorming suite à notre première, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait lancer une vaste opération sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous vous invitons à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag ECUTC. Nous lirons attentivement, bien sûr, toutes vos réactions. Cette semaine, toute la fine équipe est avec moi. Il y a Elodie, Nicolas, Nadia, Arthur, Alix, Félix, Malou, j'ai oublié personne? Non, voilà. C'est bon. Et comme d'habitude, donc, nous allons traiter des trois grands pôles d'Espace Citoyen, la philo, la citoyenneté et l'ouverture sur le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, deux nouvelles rubriques font leur apparition pour cette grande deuxième d'Expression Collective, l'édito et les brèves d'actu. Pour l'édito, eh bien, c'est notre amie Elodie qui va prendre la parole. Bonjour Elodie.
Salut Guillaume.
Eh oui, je t'active ton micro. Bonjour.
Ouais, salut Guillaume.
C'est mieux hein, quand on t'entend. Eh bah, bien, petit jingle édito alors.
Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier, bien que cela fasse sourire dédaigneusement tous ceux qui méprisent les travailleurs du rang. Et c'est le cas de tous les grands candidats qui font semblant de traiter de la même façon le temps d'une élection, un chômeur et un milliardaire comme Bouygues pour s'aplatir ensuite devant le second et envoyer les CRS contre le premier.
Voilà, Elodie, pour ton petit jingle, c'est un hommage à Madame Laguiller, Arlette Laguiller, voilà.
Oui, d'accord, ça met pas de très bonne humeur, mais ok, c'est bien.
Non, mais c'est la prise de parole, j'avais envie d'une femme forte, parce que tu es une femme forte dans tes engagements qui va prendre la parole. Elodie, alors, on t'écoute pour ton édito.
Oui, alors l'édito, le fameux édito où on doit parler sans savoir de quoi on va parler très exactement. Du coup, je dois vous avouer que je suis en improvisation totale, mais que je m'étais dit que je pourrais parler des normes, parce qu'à bien y réfléchir, c'est un sujet qui est revenu assez régulièrement dans différents débats auxquels j'ai participé récemment, qui ne serait-ce que dans l'intervention sur le handicap dont on avait parlé la dernière fois. Et finalement, la norme, on la trouve en philosophie, on la trouve en citoyenneté, on la trouve sur l'ouverture sur le monde. Parce que la norme, c'est ce cadre, c'est cette page à grands carreaux où il y a toute la surface sauf la marge. C'est cet endroit où se place la majorité, mais où finalement, il n'y a pas tout le monde. C'est aussi cet endroit où on se dit que c'est ça qui est normal et que tout ce qui n'est pas là-dedans, ça va être anormal ou c'est étrange ou c'est pas bien. Donc la norme définit à la fois quelque chose de bien et aussi ce qui va être mal. Pour l'ouverture sur le monde, il va y avoir différents types de mœurs, d'us et coutumes qui vont parfois être très différents de ceux auxquels on est habitué. On va avoir l'impression que c'est anormal, voire que c'est pas bien, sans vraiment prendre le temps de s'interroger sur ce qui les justifie et sur la façon dont ça s'intègre dans un contexte donné. Pour ce qui est de la citoyenneté, bah, il y a le vote finalement, on cherche à établir une norme, mais l'élu n'est pas forcément la norme puisqu'il y avait d'autres votes qu'on a tendance à oublier. Et pour la philosophie, la norme ça va être les auteurs qu'on cite très régulièrement et on oublie souvent les plus petits auteurs. Donc voilà, je voulais juste qu'on réfléchisse un peu sur la norme, donc je vous laisse réfléchir là-dessus.
Et ben voilà, un beau sujet en tout cas que cette question de la norme. Est-ce qu'il y a une réaction comme ça, brûle pour point, ou est-ce qu'on passe tout de suite aux brèves d'actu? Allez, les brèves d'actu, c'est tout de suite. 1, 2, 3, 4, love your hands. Le concept est simple pour cette nouvelle rubrique. J'ai donné quelques heures, quelques jours à tous les membres de l'équipe pour préparer en moins de 30 secondes un sujet qui les a marqués dans l'actualité des deux dernières semaines. Alors comme Élodie vient d'avoir la parole, Touk, on va passer à Nicolas, on va faire à l'inverse. Nicolas Bory, bonjour. Et juste avant, bien sûr, le jingle Bref d'actu. C'était aussi une belle trouvaille. Ils découvrent en fait en même temps que vous les nouveaux jingles. Donc voilà, ils vont découvrir là aussi. Petite explication de texte, peut-être, je sais pas moi, bref d'actu, ça me fait penser à bref de comptoir et donc directement à l'alcool à consommer, bien sûr, avec modération. Le premier alcoolique à nous parler, ça va être Nicolas, on t'écoute.
Alors bonjour à tous, alors je voulais parler d'un petit texte en fait qui va être présenté ce mercredi en fait au Sénat en deuxième lecture. Alors, en fait, le gouvernement a déposé mardi un amendement proposant de rétablir en fait la pénalisation des clients de la prostitution. Et en fait, ce texte sera débattu ce mercredi, aujourd'hui, en deuxième lecture, au Sénat. Donc, cet amendement, en fait, il propose que l'achat d'actes sexuels soit sanctionné par une contravention de 5e classe, donc c'est-à-dire de 1500 euros au maximum, d'accord, et que la récidive soit punie d'une amende de 3750 euros maximum. Alors, en fait, ça pose beaucoup de questions. Ouais. Ça a été souvent amené, retiré, ramené sur le tapis. Le gros souci en fait que beaucoup de personnes se posent, y compris des associations en fait de prostituées, hommes et femmes, c'est que en fait, plutôt que de résoudre le problème, ça risque encore plus de pénaliser les clients, d'aboutir en fait sur une pénalisation de fait des personnes.
Ouais, des personnes, tu dis, oui.
Qui se prostituent en renvoyant en fait finalement cette sexualité dans une périphérie. Loin, en mettant à mal encore plus leur santé, leur sécurité.
Et ben voilà, on en reparlera peut-être, parce que je vous le rappelle qu'il y a un enjeu dans ces brèves d'actu. La meilleure brève sera débattue tout à l'heure pendant 5 minutes. Malou, peut-être 30 secondes pour ta brève d'actu.
Alors, pour ce qui me concerne, j'ai choisi de vous parler de ce qui s'est passé samedi en fait à Berlin. À Berlin, samedi, il y a eu une grosse manifestation en fait, qui réclamait en fait, l'arrêt des négociations sur le TAFTA et la suspension du CETA. Alors, pour des précisions, le TAFTA, c'est le traité de libre-échange qui est en train de se construire entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est juste, moi je tenais simplement à souligner le fait qu'il y a une grosse mobilisation de la part des Allemands. Il y avait 150 000 personnes selon la police, 250 000 personnes selon les manifestants. Voilà. Pour plus de précisions, en fait, je laisserai la parole ensuite à Arthur qui va vous parler un peu du TAFTA pour que vous sachiez exactement de quoi il en retourne.
Et ben voilà, des brèves d'actu qui sont bien coordonnées. Bonjour Arthur. Arthur qui nous rejoint pour sa propre brève d'actu.
Bonjour Guillaume. Alors moi, je vais vous expliquer un peu très rapidement, et je ne suis pas un économiste, et expliquer le TAFTA en 30 secondes, c'est quand même assez compliqué. Donc en un, c'est quoi ? C'est la baisse des droits de douane et la baisse des barrières réglementaires entre les États-Unis et l'Union européenne. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, les phares de voiture sont jaunes, en Europe, ils sont blancs. Il faudrait que ces deux choses se ressemblent si ce traité passe, mais ce n'est pas le plus grave, on s'en fiche un peu des phares de voiture. Par exemple, au niveau des OGM, ça veut dire que là-bas où les OGM sont très généralisés, il faudrait que les OGM arrivent en Europe et que les OGM, surtout américains, très déréglementés, arrivent sur notre marché. Alors pourquoi ça fait peur ? Donc ces OGM, on a aussi l'harmonisation des réglementations, donc c'est-à-dire au niveau écologique, les États-Unis sont peu connus pour leur...
pour leurs bienfaits écologiques. Exactement. En tout cas, c'est du libre-échange et c'est inquiétant. Autre bref d'actu peut-être, Élodie ?
Je vais essayer de respecter les 30 secondes et faire rapide. Juste samedi 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Une formulation qui est assez intéressante parce que finalement, on parle des maladies mentales alors qu'à la base, on est censé parler de la santé mentale. Et voilà, et comme c'est encore une question de normes, et ben on pourra continuer à en discuter. Je vais juste pas en dire plus parce que comme ça, je respecte bien mes 30 secondes.
Et ben voilà, on en rediscutera peut-être. Nadia, et puis juste après, Alexis pour les brèves d'actu.
Bonjour.
Bonjour Nadia.
Alors ça va être très rapide là pour l'instant, mais je tenais à, parler un petit peu de l'attentat qui a eu lieu en Turquie, à Ankara, le 10 samedi. Alors, c'est un attentat qui a touché une manifestation qui était pour la paix, en fait. Et donc, il y avait énormément de personnes, donc des Ankariotes, sachant qu'Ankara, c'est la capitale de la Turquie, pour ceux qui ne sauraient pas. Et énormément de personnes qui venaient de partout, et, du pays. Et donc, il y a eu une centaine de morts, plus de 200 blessés. C'est vraiment une catastrophe pour le pays. C'est le plus gros attentat, pour le moment, de l'histoire de la Turquie. Alors, les élections législatives vont être maintenues le 1er novembre en Turquie. Et ça crée des grosses tensions. Vous savez déjà qu'il y a des problèmes avec la frontière avec la Syrie. Il y a un attentat qui a eu lieu à Suruç le 20 juillet. Donc, il y a 32 personnes qui étaient mortes. Et déjà, ça avait créé des tensions. Et là, ça va renforcer le phénomène. Voilà. Mmh. Alors, il y a carrément... disons que c'est l'État qui est plus ou moins mis en cause. Les gens se révoltent un peu contre Erdogan. Donc, on pourrait revenir dessus pour un petit peu discuter tout ça. Et voilà. Et puis, une pensée pour toutes les personnes qui sont mortes. Il faut savoir que j'ai vécu à Ankara pendant longtemps et que je connais bien la place sur laquelle a eu lieu l'attentat. C'est pour ça que ça m'a particulièrement touchée aux larmes.
Particulièrement touchée. Voilà un sujet assez grave. Pour terminer, Alexis, avec ta propre brève d'actu.
Bonjour, l'espace citoyen et bonjour Graphite. Merci de me recevoir. C'est gentil à vous. Je vous propose de parler du phénomène Cévenol qui engendre souvent des inondations dans le sud-est, comme le 3 octobre. J'ai discuté hier avec un météorologue et puis on en est venu à discuter de notre manière d'urbaniser et puis aussi le respect des systèmes d'alerte comme la vigilance orange qui avait déjà été annoncée. Alors si vous voulez qu'on en débatte, voilà, je pourrais vous en dire plus.
Et ben voilà, on pourra en parler. Alors moi, ma propre brève, c'était un extrait, mais peut-être tout à l'heure, pendant les 5 minutes d'évolu, on l'écoutera. Puisque pour l'instant, sur Radio Graphite, Espace Citoyen, il est temps de marquer une courte pause. On va se retrouver dans quelques minutes juste après. Une première musique, il s'agit de Rose Hybride de thé. De qui du coup, Elodie ?
D'Émilie Simon.
D'Émilie Simon. Et ben voilà, on s'écoute Rose Hybride de thé. Et on se retrouve juste après ça sur Radio Graphite. Restez avec nous. De retour à l'antenne de Radio Graphite pour la suite de votre émission Espace Expression Collective. J'arrête pas de me mélanger aujourd'hui. Expression Collective de l'association Espace Citoyen. Je vous rappelle que toutes les deux semaines et pendant une heure, vous nous vous faisons voyager, vous exprimer, prendre la parole. Et tout de suite, on va parler philo. Mais alors, philo sans aucune prise de tête.
Alors, vous deviez analyser. Pour aujourd'hui, le sentiment qu'éprouvent le jeune Julien Sorel, envers Madame de Rênal, du rouge et du noir de Stendhal. Tout ceci, en un mot. C'est clair ? Un mot ! Alors nous allons voir.
Alors, nous allons voir, disait Elie Kakou dans ce magnifique jingle. C'est un moment de partage souvent associé à la convivialité. On le fait 2, 3, 4, voire même 5 fois par jour pour certains. Il y a du plaisir, bien sûr, mais parfois aussi de la frustration, du désamour, de la tension. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. On aime regarder dans l'assiette de l'autre, mais au fond, qu'est-ce que la nourriture dit de nous? C'est la question qu'on s'était posée il y a tout juste une semaine lors du dernier Café Philo. Avec nous pour en parler, Félix, responsable du pôle philosophie. Bonjour Félix. Et je t'ai pas mis ton micro, donc on t'entend pas, excuse-moi Félix.
Bonjour Guillaume, c'est vrai que c'est mieux comme ça.
Avec nous également, il était venu nous parler du sujet, il revient, c'est Alexis, bonjour Alexis.
Bonjour.
Et puis Elodie est là, bonjour
toujours,
Elodie.
Toujours là, rebonjour, rebonjour.
Et puis tous nos autres amis bien sûr qui sont derrière et qui trépignent et qui peuvent à tout moment prendre la parole en levant leurs doigts de manière magistrale. Alors Félix, ce Café Philo, il avait pour thème donc la nourriture. Est-ce qu'on est ce que l'on mange? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus?
Alors tout d'abord qu'il était en partenariat, je tiens à le préciser, avec l'association K-Carotte. Petit hommage comme d'habitude puisque Elodie est également la présidente de cette association.
Et bah big up à toi Elodie. Merci. Donc voilà. En partenariat avec K-Carotte. Et donc ce sujet, est-ce qu'on est ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on peut, comme ça, comment on peut le détricoter?
Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors c'est vrai que c'est un sujet extrêmement vaste. Est-ce qu'on est ce qu'on mange? Qui porte en lui extrêmement, énormément d'enjeux. Des enjeux en diététique d'une part, donc c'est-à-dire analyser d'un point de vue vraiment nutritif notre comportement au quotidien et notre rapport avec la nourriture, ouais. Mais également un enjeu philosophique, c'est-à-dire de penser, de se poser, de réfléchir un petit peu quelles sont nos prises de position par rapport à ce que l'on mange et en quoi ce que l'on mange peut nous définir finalement.
Alors toi, qu'est-ce que tu as mangé ce midi par exemple?
Alors ce midi, je n'ai toujours pas mangé pour l'instant, donc est-ce que je suis rien?
Oui, c'est ça.
C'est une bonne question.
Non,
mais,
non, on a dit pendant le Café Philo que ce n'était pas rien, que c'était la prédominance de l'esprit sur le corps.
Ah bah ça, la prédominance de l'esprit sur le corps, on va en parler dans quelques instants justement. Beau teasing, parce que j'ai ramené quelques extraits bien sûr. Alors je ne sais pas, est-ce que je balance un extrait ou est-ce que...
Alors oui, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit extrait et de débattre ensuite dessus.
Ok, très bien. Premier extrait, alors, c'était à propos des petits déjeuners, parce que finalement, ce Café Philo a dévié sur la thématique de l'alimentation plus générale, bien sûr, mais est-ce qu'on est ce qu'on mange? C'était la question de l'alimentation qu'on doit faire, des différents régimes alimentaires que l'on peut avoir. Et ici, deux interventions à propos du petit déjeuner, notamment celle d'Alexis. Du coup, faut-il ou pas manger un petit déjeuner? La question, en tout cas, est posée.
On dirait pas, mais en supprimant le petit déjeuner, bon, je recommande pas à tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie à côté. J'ai arrêté d'avoir ces coups à 11h, où on a vraiment faim, on a besoin de ravoir notre sucre, parce qu'au final, quand la glycémie va s'augmenter, après, il va y avoir une production trop grande d'insuline qui va nous faire revenir un peu en hypo. Franchement, j'ai plus aucune faim le matin, ça va nickel et tout va bien. Non, rien du tout. Vas-y.
Alors, il faut savoir qu'on a dans nos coutumes en France, en tout cas, de manger sucré le matin. Et le matin, c'est vraiment le moment où il ne faut pas manger sucré. Parce que justement, un pic de glycémie va entraîner ensuite un rush. Et c'est ce que tout le monde a, tout le monde qui a le mode alimentaire le plus courant, en tout cas en France. Et donc, le matin, c'est vraiment le moment où il faut manger des sucres lents. Alors, on nous dit beaucoup de conneries sur les sucres lents et les féculents. On nous associe les deux idées entre elles, alors que c'est complètement différent. Si je peux vous faire un petit cours vite fait, si ça vous intéresse. Ok, alors, les féculents, c'est des sucres complexes. Voilà. C'est tout. Sauf que sucre complexe ne veut pas dire sucre lent à assimiler. Pas forcément.
Alors voilà, sucre lent, c'est sucre complexe. Non, là, je suis en train de me perdre.
Oui, les sucres lents sont des sucres complexes, mais les sucres complexes, c'est-à-dire les féculents, ne sont pas forcément des sucres lents.
Voilà, donc c'était un peu la question. Finalement, c'était un peu sur ce est-ce qu'on est ce qu'on mange, c'est qu'il faut peut-être d'une certaine façon faire attention à ce qu'on mange. Et là, c'était un peu l'enjeu de cet extrait, c'est-à-dire bien penser à même ce moment, ce sacro-saint petit déjeuner. Et ben voilà, il faut faire attention à la manière dont on l'appréhende.
Tout à fait, je suis bien d'accord.
Sur ce sujet, toi, Elodie, c'était plus que le petit déjeuner, c'est le premier repas qui te paraît important.
Oui, c'est ça. J'avais fait une remarque, je ne sais plus, c'était en réaction au sujet dont on parlait, c'était dans la foulée du passage que tu nous as fait écouter. J'avais fait remarquer que finalement, ce n'est pas le petit déjeuner en tant que tel qui est important. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se lever et de se dire « Oh là là, il faut absolument que je mange, alors je vais prendre du pain complet parce que c'est des sucres lents et puis je vais prendre un petit peu de protéines. » Le pain complet, ce n'est pas des sucres lents ?
Non. Toutes les céréales sont des sucres en fait relativement rapides. Elles ont un index glycémique qui est aux alentours de 70, voire 90.
D'accord.
C'est une échelle de 0 à 100, l'index glycémique.
Oui, je sais.
Donc, ça fait monter vraiment toutes les céréales et le pain encore plus parce que c'est une farine. Et quand on fait une farine, on a un index glycémique qui monte encore plus.
Bon, alors je vais manger des flocons d'avoine.
C'est une céréale aussi, donc des sucres
relativement
rapides.
Bon, alors on va manger
rapides.
Des sucres lents ou des sucres, en
voilà,
tout cas, des féculents.
Non, des féculents ne sont pas forcément des sucres lents.
Non, j'avais compris.
Voilà.
Non, mais c'était pour faire un exemple type, genre je me lève et je me dis, tiens, faut que je mange absolument ça.
Et moi, ce matin, j'ai mangé des lentilles et ça va.
Voilà, ok. Bon, alors... Voilà, alors je vais reprendre mon truc. Du coup, je me lève, je me dis, il faut absolument que je mange des lentilles. Non, c'est pas forcément ça pour moi. C'est plutôt... Il faut faire attention au premier repas de la journée parce que c'est celui effectivement qui va rompre le jeûne, qui va couper la pause alimentaire de la nuit en fait et du début de la journée.
Donc importance assez importante j'ai envie de dire, mais je vais pas faire des pléonasmes aujourd'hui. Importance de ce premier repas de la journée. Félix finalement. Félix, finalement, tiens, t'as 2 heures.
Voilà, très bien. Non, en effet, ce petit déjeuner, c'est aussi le moyen de savoir chaque jour comment on débute sa journée, à mon sens. Enfin, pas forcément du point de vue nutritionnel, même s'il est important, mais c'est également la façon de savoir comment on aborde, comment on attaque sa journée et comment on se... dans quel état d'esprit on se met à travers cette première expérience nutritive de la journée. Et à mon sens, ça rejoint très très bien le sujet dont on avait débattu ensemble.
Ouais.
Parce qu'on va avoir vraiment une première expérience autant psychologique, j'ai envie de dire, que nutritive, qui va vraiment guider le reste de notre journée, premier repas.
Que nutritive. Il y a notre ami... Arthur, j'allais perdre ton nom, Arthur qui veut prendre la parole justement à propos de ce sacro-saint petit déjeuner.
Exactement, moi ça fait 4 ans que je suis à l'UTC, 4 ans que je ne prends plus de petit déjeuner, pourtant je me porte très bien. J'aimerais savoir si ça va me porter préjudice à long terme ou pas.
Bah, quand est-ce que tu manges pour la première fois de la journée ?
Le midi, vers midi.
Et tu te réveilles le matin ?
Ça dépend.
Ça dépend. Et bah, quand tu te réveilles à 11h, je considère que c'est un petit déjeuner.
Non, je me réveille en général vers 8-9h, sachant que le matin...
D'accord. Ouais. Et ben, pourquoi pas, hein, chacun son rythme. L'important, je pense, avec l'alimentation et surtout le rythme alimentaire, c'est de manger quand on en a envie et besoin. C'est surtout ça qui compte. Et puis, ne pas espacer trop les repas. Parce que plus on les espace, plus le corps va se mettre en mode stockage, puisqu'il n'a pas de nourriture pendant un certain moment. Il va se dire, bon, bah, la prochaine fois que j'ai de la nourriture à portée de main, eh bah, je fais des stocks. Voilà, à moins qu'on se mette à courir juste après avoir mangé. Et dans ce cas-là, il ne va pas pouvoir faire ses stocks. Mais voilà, il vaut mieux éviter d'espacer les repas. Et c'est vrai qu'après la nuit, qui dure des fois 8 heures de sommeil, le corps, c'est bien de l'alimenter, quoi.
Ouais, non ? Non, c'est bon.
Mais sûr. Mange quand tu veux.
Tu as le droit de manger.
C'est l'important.
Deuxième question deuxième point en tout cas, qui avait un des points qui a été abordé lors de ce café philosophie. Si finalement on dit ce qu'on est, ce qu'on mange, donc par exemple quand on prend un petit déjeuner, bah voilà, on est ce petit déjeuner parce qu'on est rempli de soit ce sucre lent ou ce sucre complexe, je parle sous contrôle bien sûr. Alors finalement, quand on ne mange pas, bah qu'est-ce qu'on est a priori ? Peut-être rien, c'était la question qu'Elodie posait lors de ce café philo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
si on arrête de manger, on prive notre corps. Bon, il se désoxifie, ça lui fait du bien, mais quelque part, on prive notre corps. Et j'ai déjà lu des témoignages qui disaient que tout à coup, ils arrivaient à réfléchir mieux, qu'ils avaient l'esprit plus clair. Comme si le fait de se priver d'alimentation, ça redonnait une sorte de force de l'être dans l'âme. Et que justement, en se privant, pour revendiquer, c'est donner la plus belle part à ce qu'on a au fond de soi, finalement, à ce qui nous touche le plus, nos revendications. Du coup, c'était intéressant. Enfin, j'avais pas pensé du tout à ce côté-là, et c'est super intéressant.
Réaction de Félix à cet enregistrement.
J'avais pas tilté finalement la semaine dernière lors du dernier Café Philo, mais c'était vraiment une remarque pertinente et intéressante et qu'on retrouve souvent même en philosophie classique finalement, où certains grands auteurs, dans les bases, dans les fondements de beaucoup de religions, il va y avoir une recherche de l'abandon, de la possession, pour une élévation de l'esprit finalement. C'est-à-dire et qu'on retrouve d'ailleurs également chez les bouddhistes, hein, si je ne me trompe pas, c'est l'idée de se mettre à jeun, de purifier le corps finalement de ce qu'il a de plus matériel afin de pouvoir se tourner vers la spiritualité, de dégager l'esprit finalement de ces liens qui le retiennent assez profondément à la terre. Donc ça c'est une question qui me fait assez réagir finalement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se séparer le plus possible de ce qui nous est physique pour pouvoir élever l'esprit, alors que on a d'autres modes de pensée. Je pense notamment par exemple à Socrate ou Épicure qui pensent qu'il faut avoir une base vraiment matérielle qui nous ôte de l'esprit toutes les préoccupations matérielles une fois qu'on est assez à l'aise, et à partir de là on peut vraiment se consacrer à la recherche spirituelle.
Oui, c'est intéressant comme remarque. Moi personnellement, je pense que c'est même pas atteignable en fait de vouloir se priver à tout prix de son corps, parce qu'il y a forcément un moment où il va se rappeler à nous. Qu'il va se rappeler à nous. Bon, des fois de façon drastique. Enfin, moi je pense à l'anorexie où il y a des personnes qui en meurent. Mais il y a aussi un moment où le corps il dit stop et
les gargouillis dans le ventre, réveille, par exemple, plus légèrement.
Ouais, mais les gargouillis dans le ventre, c'est pas forcément un signe de faim, en fait. C'est juste un signe que l'estomac est vide. Nous, on interprète ça comme de la faim, mais c'est pas forcément de la faim. Enfin, d'un point de vue physiologique, j'entends.
Ah bon, d'accord. Oui, parce que moi...
oui, non, mais c'est... Oui, ok, c'est comme ça que tu l'associes, mais... Ouais. Mais enfin, donc, pour revenir sur la question de Félix, je pense que la meilleure façon d'être au monde, et donc de comprendre le monde, de s'interroger et de le penser... c'est de trouver un équilibre, l'équilibre qui nous convient à chacun individuellement, parce que ce n'est pas un équilibre universel, entre justement le côté esprit et le côté corps, et en fait de réussir dans toutes les activités qu'on fait, donc se nourrir mais aussi d'autres, à être bien dans son corps, en étant bien dans son esprit, et de façon à ce qu'il y ait un couplage entre les deux qui permette un couplage au monde.
Et si finalement, nous a demandé un moment Edouard, on était ce qu'on ne mangeait pas?
Depuis le début, tu veux nous faire revenir sur est-ce qu'on est ce que l'on mange. Et je me pose la question, j'ai plutôt l'impression en fait qu'on est ce qu'on ne mange pas. Moi, je mange de tout et je ne vais jamais dire je mange de tout. Socialement, je parle de ça socialement. Est-ce qu'on est socialement ce que l'on mange? C'est pas, je ne veux pas dire je suis carnivore, je suis omnivore. Non, je mange de tout et je m'en fous. Je ne vais pas le dire. En revanche, dès que tu as un mode de vie vegan, végétarien, végétalien, c'est toujours quelque chose qui va ressortir... et dont tu vas faire profiter les autres. Mais c'est vrai, parce que tu as une expérience qui sort de la norme aussi, donc c'est très intéressant d'avoir ce partage avec les gens. Mais c'est toujours dans la négation. Je ne mange pas de viande avant de dire je mange des légumes. C'est toujours dans ce sens-là qu'on... Non, mais très très souvent, c'est dans ce sens-là qu'on l'entend. Et donc voilà, j'ai plutôt l'impression qu'on est ce qu'on ne mange pas, plutôt qu'on est ce que l'on mange socialement, encore une fois.
J'aimerais bien dire le contraire. Parce que finalement, en fait, j'ai toujours eu un rebut naturel pour la viande. Et quand on m'a expliqué, quand j'étais petit, que c'était des bouts d'animaux, je l'ai très mal vécu. Et ça a été une souffrance pour moi de manger un animal qui a souffert, ou en tout cas qui est mort. Donc finalement, je souffrais de manger de la souffrance. Désolé de le dire aussi crûment, je juge personne ici. Mais c'est ça le schéma, c'était ancré dans ma psychologie. Dès mes 10 ans, 9 ans. Et finalement, quand j'ai arrêté, je suis devenu serein. Donc maintenant, je suis en paix parce que je mange en paix.
Cette question, du coup, ne finira-t-on pas par devenir ce que l'on ne mange pas, par se définir par la négative ? Vous l'entendiez à l'instant dans l'extrait, c'est Alexis qui parlait. Alexis, toi, tu es végane, tu es venu aujourd'hui à l'antenne de Graphite. Est-ce que finalement, cette remarque de « on est ce que l'on ne mange pas », tu la trouves pertinente par rapport à ton expérience personnelle ? Alors peut-être juste avant, rappelle ce qu'est un végane et puis voilà, qu'est-ce que tu
penses ? Alors un végane, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui ne profite pas dans son mode de consommation de l'exploitation animale. Voilà. Donc après, où est la frontière entre le végane et le respect ? Des fois, c'est pas évident parce que du coup, moi je considère que l'humain est un animal à peu près comme un autre, en tout cas d'un point de vue biologique. Mmh. Et c'est vrai qu'il m'arrive d'acheter des objets qui ont été façonnés par des humains qui sont exploités aussi.
Ouais,
et éviter l'exploitation humaine, c'est éviter aussi l'exploitation animale, pour moi en tout cas. Donc c'est pas évident à ce niveau-là. Mais en tout cas, éviter l'exploitation des autres espèces animales, c'est relativement simple dans la vie de tous les jours, quand on s'impose un mode de vie particulier. Alors après, la question que évoquait Edouard, je la trouve mal formulée, mais pertinente. Mal formulée dans le sens où je ne suis pas ce que je ne mange pas, mais je me définis par ce que je ne mange pas. Mais pas seulement, je me définis par ce que je choisis de manger et je choisis de ne pas manger. C'est
D'accord.
une question de choix et non pas une question de négativité, de rejeter des choses. Parce que quand on devient végétarien, végétalien, vegan, tout le monde vous le dira, en tout cas, même les flexitariens qui s'y mettent un petit peu, mais juste pour découvrir. Justement, on découvre un autre mode d'alimentation, plein de nouveaux aliments. Et c'est plutôt une phase de découverte que de privation, en tout cas, quand on fait ça bien.
Parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que on n'est pas forcément ce par quoi on se définit.
Non, pas tout à fait. C'est que je suis ce que je ne mange pas. Et se contenter de cette phrase, non, c'est « je suis ce que je mange ». Et je me définis aussi par ce que je ne mange pas, ce que je choisis de bannir de mon alimentation. Donc on est ce par quoi on se définit, mais je veux dire, se contenter de la phrase négative, c'est un peu triste.
D'accord, ouais, c'est ce que tu manges, mais aussi ce que tu ne manges pas finalement.
Exactement, voilà. C'est D'accord. les choix alimentaires et de consommation en général, puisque les véganes ne portent pas non plus de cuir ou ce genre de choses.
D'accord, pas de cuir du coup, pas de soirée. Pardon, excusez-moi.
Peut-être avec toi, Guillaume.
Merci, Guillaume.
On verra.
Dernier extrait de l'enregistrement. Il y a Elodie à côté. On ne me déconcentre pas, Elodie, s'il te plaît.
J'ai rien dit.
Je crois que t'as pas besoin d'elle pour ça. Mais...
oui, c'est ça, je me déconcentre tout seul. Allez, je regarde ma feuille. Dernier extrait, c'est dur tout de même. Bah oui, mais elle est nulle, ma feuille. Oui, c'était la question des interdits. Pardon. C'était la question. Non, mais il y a noté, c'est dur tout de même d'avoir des interdits alimentaires vis-à-vis de notre rapport aux autres. Mais c'est parce que je suis censé improviser dessus. Bon, dernier extrait en tout cas de ce café philo.
On est tout seul, ça va. Mais dès qu'on vit à plusieurs, en coloc, ça va, ça doit pas être un souci. Mais à deux, je sais pas, en couple ou chez ses parents ou quand on sort le soir avec des amis, on peut pas. Enfin, c'est compliqué de dire je mange pas. Mais c'est comme le souci qu'on a quand quelqu'un fait un régime particulier, on est toujours obligé de se justifier, etc. Et au bout d'un moment, franchement, ça peut être lourd. Franchement, je fais un peu attention à ce que je mange et quand je vais avec des amis et que je dois expliquer que non, j'ai pas envie d'aller à McDo parce que j'ai pas envie de manger un cheese là, bah ça va être tout de suite se foutre des gens. Ou... Je trouve que c'est quand même difficile culturellement parlant d'avoir un rythme différent.
Tour à l'antenne de Radio Graphite pour la suite de votre émission Expression collective d'Espace Citoyen. Alors, voilà, c'était en tout cas ce Café Philo. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'intervenir pour conclure ce Café Philo. Voilà.
Je pense que l'alimentation, si on veut un peu s'y connaître, il faut faire beaucoup de recherches. Les médecins ne sont pas connaisseurs parce qu'ils ont maintenant de plus en plus pour fonction de vendre des médicaments. Sauf que la plupart des problèmes de santé sont dus à des mauvais choix alimentaires. Donc on peut régler les problèmes à la source. Sinon, il faut se renseigner, aussi apprendre à se connaître et arrêter de suivre les modèles prédéfinis, préconçus, qu'ils soient traditionnels ou même dogmatiques, puisque des fois on a du vegan, on nous dit tofu, faut arrêter quoi, faut se faire son truc et puis apprendre à se connaître en fait, tout simplement.
connais-toi toi-même et tu sauras quoi manger.
C'est exactement.
Un peu l'adage voilà. qu'on pourrait dire. Malou avait peut-être une réaction
non,
à faire.
Non, c'est simplement pour reprendre justement l'édito d'Élodie tout à l'heure, quand on parlait de la norme, en fait. Le végétarisme s'est perçu comme un écart à la norme, alors qu'en fait, c'est simplement... Ça peut peut-être être une autre norme, mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, la norme, c'est d'être omnivore. Mais voilà, comme on est dans une émission remise en cause des normes, je trouvais que c'était intéressant de le préciser.
Si je peux me permettre, on se prétend omnivore, mais sur le plan physiologique, personne, à ma connaissance, n'a réussi à le devenir, c'est-à-dire à changer sa denture, à changer son système digestif, et voilà. Donc, et puis à se bricoler des griffes aussi pour réussir à choper les animaux vivants. Donc omnivore, on l'est dans nos choix alimentaires, dans nos habitudes, mais on ne le sera jamais de manière physiologique.
Et ben voilà, une parole très intéressante, hein, l'idée des ongles en plus à couper des griffes. Pour conclure cette partie Café Philo, on passe très rapidement sur à Félix avec un petit thème dont il va nous parler tout de suite.
Voilà, alors en effet Guillaume, très rapidement, je vais présenter, faire une petite lecture d'un texte que j'ai préparé à propos de Lévinas, donc Lévinas, philosophe français, enfin du moins d'origine lituanienne, mais naturalisé français, philosophe peu connu tout de même du grand public, mais qui gagne en importance. Quand je dis peu connu, c'est par rapport au ponte de la philosophie, parce que je vois qu'Élodie me fait les gros yeux. Mais donc voilà, donc rapide point sur Lévinas et la notion d'altérité, notion qu'on retrouve de plus en plus, notamment dans les cafés philo et citoyenneté qu'on aborde. Donc Lévinas et le visage. Donc Lévinas, philosophe du XXe siècle, né en 1905, mort en 1995, qui est l'un des plus grands penseurs de l'altérité et du rapport à l'autre. Autrui, qu'est-ce qu'autrui ? Autrui, c'est d'abord un visage. Mais le visage n'est pas ce masque qu'on pourrait regarder comme on regarde un objet quelconque. Le visage est une expression, un discours. Le visage est une parole, une demande, une supplication, un commandement, un enseignement. Quand je regarde une personne, je ne vois pas ses yeux, mais je suis transporté dans un au-delà qui me révèle l'idée d'infini que je ne peux trouver en moi-même. Rien n'est plus étrange, ni plus étranger que l'autre. Il est l'inconnaissable. La compréhension d'autrui est inséparable de son invocation, l'injonction éthique. L'injonction éthique qui a sa source première dans le fait qu'autrui me regarde. Le visage oblige, commande. Il exige réponse, aide, sollicitude. Chez Lévinas, le visage me convoque. Il me rappelle ma responsabilité. Il faut bien comprendre que le visage de l'autre n'est pas seulement le visage tel qu'on peut l'appréhender lorsqu'on entend ce mot visage habituellement, c'est-à-dire deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Le visage, c'est l'expérience que l'on fait de l'autre. C'est ce cri que l'on reçoit en pleine face, ce cri qui fait vibrer en nous un commandement inné. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point car je suis l'autre. Je suis celui qui te fait face et qui inonde ton esprit de mon existence. Ainsi, ce qui fait visage, c'est toute partie de l'autre, visage ou non, qui apparaît vulnérable et qui, par sa vulnérabilité à la violence, inspire en nous un sentiment de responsabilité. Donc là, j'aurais bien parlé de Sartre et de son idée complètement opposée de l'altérité et de la responsabilité, mais clairement, je n'ai pas le temps. Donc je vous proposais également de réfléchir à une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait visage à l'heure où la plupart de nos communications se font également par Internet, donc avec des personnes qui sont dématérialisées, où on n'a plus la face, on n'a plus le visage et l'altérité en face. Donc qu'est-ce qui fait visage ? Est-ce que c'est ce qui favorise, par exemple, le fait qu'il y ait plus de violence, plus de haine dans les propos qui sont tenus sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, c'est très caractéristique.
Parce qu'on n'a pas la personne en face.
Il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien qui fait visage. Alors, ce que me disait Edouard, par exemple, c'est que déjà, rien que s'il y avait un prénom dans l'interlocuteur à qui on s'adresse sur Internet, donc quelque chose qui n'est pas anonyme, quelque chose qui n'est pas un pseudo, mais quelque chose qui pourrait faire visage dans la dématérialisation.
Ça changerait le rapport
qu'on aurait. Ça changerait totalement.
Écoute, je propose que cette question, en tout cas, on se la garde dans un bon coin de tête parce que c'est une question qui est passionnante. On n'a pas beaucoup de temps pour y parler, mais peut-être que dans deux semaines, on pourra revenir dessus et débattre plus largement sur cette question du visage. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah bah ça ne me dérange pas.
Eh bah, très bien. On va marquer une... petite pause musicale, bien sûr, avec I Wonder de Rodriguez. On va se retrouver juste après à l'antenne de Radio Graphie pour la suite de votre émission Expression Collective, l'émission de l'association Espace Citoyen. On va parler tout de suite d'un débat assez poignant, la fusion de la Sorbonne et de l'UTC. Alors, c'est pour quand ? Vous en saurez plus dans quelques instants. Bien sûr, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag ECUTC. À tout de suite.
times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder. Wonder I do. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. I wonder, I wonder. Wonder, don't you?
Retour à l'antenne de Radio Graphite pour la suite de votre émission Expression Collective, l'émission de l'association Espace Citoyen. On parlait philo il y a quelques instants. On va tout de suite passer à notre pôle citoyenneté avec Nicolas Bory, avec Pierce Barrios. Je vous explique tout dans moins de maintenant, quoi, en fait. C'est maintenant que je vous explique tout. Comment ?
Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole. C'est un langage très féminin. Ça s'appelle un chip. Concentré de dédain.
C'est ce que vous inspire Marine Le Pen ?
C'est qui ça ?
Alors juste avant, je crois qu'Alexis avait un petit message par rapport à la musique à Wonder qu'on vient d'écouter de Rodriguez à l'instant.
Oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce que je suis invité dans une émission philo. Et puis c'est justement, du coup j'ai choisi comme chanson une chanson de Rodriguez que ma prof de philo de terminale m'a fait découvrir. Donc je la dédicace à Héloïse et je la remercie pour cette découverte musicale qui m'a beaucoup ouvert.
Ben voilà, ben c'est beau. Tu l'appelles par son prénom, toi, ta prof de philo ?
Oui, ben oui, maintenant, on est amis, donc il n'y a pas de souci.
Dédicace à Justine, alors, mais bon, je l'appelle par son prénom, du coup. On passe, je le disais, à cette grande question, tout de suite, la fusion Sorbonne-UTC. Alors, si tant est que vous êtes de près ou de loin dans les sphères UTCN, vous n'êtes pas sans savoir qu'un gros dossier se prépare. Assemblée générale extraordinaire, réunion des étudiants et qui sait, bientôt piquet de grève et manif peut-être, ça bouge à l'UTC. Alors, dans un premier temps, Nicolas est avec nous. Rebonjour Nicolas, est-ce que tu peux expliquer rapidement de quoi il en retourne dans cette histoire de fusion ?
Le cadre est qu'il est question d'un rapprochement en fait, à l'horizon des prochaines années entre l'UTC, notamment Paris 4 et Paris 6, voire d'autres écoles. Et donc ça traînait un petit peu, on va dire, dans les cartons et des discussions déjà depuis quelques années, quelques temps. Maintenant, finalement, le calendrier s'accélère visiblement et soudain, finalement, on entend beaucoup parler. Donc on reçoit Pierce pour un peu plus cadrer la chose et avoir plus d'infos concrètes sur comment ça se passe. Donc est-ce que tu peux un peu nous présenter le contexte finalement ?
Alors je me présente, je suis représentant des étudiants au conseil d'administration de l'UTC depuis 2 ans. Le contexte à l'heure actuelle, c'est qu'on a reçu un mail au 15 septembre de notre directeur de l'UTC, Alain Storck, qui nous faisait état de la situation entre les universités Paris 4 et Paris 6, donc à savoir l'université Pierre et Marie Curie et Sorbonne Université, nous disant qu'il y allait avoir un rapprochement tel qu'il y allait avoir une nouvelle université à l'horizon 2018. Et d'accord. La question était, à l'heure actuelle, quel est le positionnement de l'UTC par rapport à cette nouvelle université,
à ce projet de fusion.
Donc voilà. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup de questionnements soulevés, sans pour avoir en face beaucoup de réponses.
Donc fusion, rapprochement, finalement, sera un petit peu quoi les cadres potentiels ?
Alors, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une fusion dans la mesure où les deux établissements vont garder leur identité. Mais ce qui va se passer, c'est que des deux établissements, on va en émerger finalement un nouveau. Donc, on va supprimer les deux anciens pour en créer un nouveau, qui va finalement être un renouveau des deux anciens. Donc ça, c'est ce qui se passe entre Paris 4 et Paris 6. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de position fixe à l'UTC par rapport à cette fusion.
Parce que ce qui comprend bien toute la question aujourd'hui, c'est de savoir la place que doit prendre l'UTC dans ce nouveau regroupement d'universités. Moi, j'ai une question. Du coup, j'ai l'impression que les instances administratives sont plutôt partantes pour cette fusion. Du côté des élèves, ça a l'air de tiquer un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça, bah, pourquoi en fait cette fusion pose problème ?
Alors cette fusion pose problème et pas seulement au niveau des étudiants, mais à différentes personnes dans l'UTC, que ce soit des enseignants ou des personnels, hein. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si en rejoignant cette université qui est à l'heure actuelle en train de se créer, ce qui va se passer de l'UTC demain, c'est-à-dire va-t-on garder une autonomie financière ? Va-t-on garder ce modèle pédagogique qui est le nôtre de pouvoir choisir ses enseignements ? Et donc, il y a énormément de craintes à l'heure actuelle et de la part de nos interlocuteurs, les mêmes questionnements, puisqu'ils ne peuvent pas apporter de réponses concrètes à l'heure actuelle.
Donc du coup, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, c'est ce qui est inquiétant en ce moment. On parle, si cette fusion devait avoir lieu, ça serait plutôt à horizon 2018.
Oui, alors, le calendrier annoncé par les présidents de Paris 4 et Paris 6, ils annoncent que leurs universités ne feront plus qu'une au 1er janvier 2018. Donc on est sur un calendrier plutôt serré à l'heure actuelle.
Plutôt serré, Nicolas.
Tout à fait. Après, sur l'exemple un petit peu le plus des points qui pourraient être positifs, finalement, pourquoi cette fusion, en fait, il y avait un cadre législatif du coup qui poussait vers ça. Est-ce que tu peux un peu juste nous expliquer un petit peu le contexte derrière, finalement, pourquoi il y aurait une fusion, finalement, d'un coup, là ?
Alors, le contexte législatif derrière est celui d'une loi sur l'enseignement supérieur, dite loi Fioraso, qui est du 22 juillet 2013, donc qui invitait fortement les établissements à se réunir entre eux, au sein de trois niveaux d'agrégation. Donc, le plus important, c'est la fusion. Elle venait ensuite la commune, donc communauté d'université, puis l'association. Ce qui s'est passé, c'est que l'UTC s'est positionné sur différents tableaux, c'est-à-dire qu'il s'est posé dans une association Picarde, d'une part avec l'UPJV et tous les acteurs de Picardie, et d'un autre côté, il s'est positionné dans la commune, donc communauté d'université, du nom de Sorbonne Université, qui regroupe notamment Paris 4, Paris 6, l'UTC, mais aussi l'INSEAD, ou par exemple le Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, à l'intérieur même de cette communauté d'université qui est la nôtre, il va y avoir la fusion annoncée des deux plus grands acteurs.
D'accord. Et donc finalement, les prochaines étapes là, donc c'est, il y a une prochaine AG donc avec l'Instorc le 20, je crois.
Tout à fait. Alors, les prochaines étapes au niveau de Paris 4 et Paris 6, il va y avoir beaucoup de groupes de travail et de savoir comment est-ce qu'à l'intérieur des deux universités, il y a une organisation. Et à l'intérieur de l'UTC, nous allons avoir notamment beaucoup de discussions en interne, notamment lors des prochains conseils d'administration donc, qui seront en décembre et en février. Et on invite bien entendu tous les étudiants à aller à l'Assemblée Générale de notre directeur Alain Storck le 20 octobre pour pouvoir poser les questions et tenter d'avoir les quelques réponses qu'on peut avoir à l'heure actuelle par rapport à ce positionnement et par rapport à quels seraient les avantages et les inconvénients de se regrouper avec ces nouvelles universités.
Merci beaucoup, Pierce, pour toutes ces infos. Si on veut en savoir plus, bien sûr, ça se passe sur Facebook, représentant, élu, CA, CVU.
tout à fait.
Voilà, vous pouvez voir sur Facebook, bien sûr, il y a pas mal de publications sur le groupe Facebook de l'UTC pour toutes ces assemblées générales. Petite pause musicale et juste après, on va partir sur le pôle ouverture sur le monde avec Nadia qui nous a rejoint. Rebonjour Nadia. Dans Bonjour. Quelques instants, on va parler partenariat, on va parler journaux, on va revenir aussi sur l'actualité. Vous restez avec nous. Bien sûr, ça continue. Tout se passe si vous avez envie sur le jingle, le hashtag ECUTC pour débattre, commenter, réagir. Une petite pause musicale, je disais, All About That Bass. Et on se retrouve juste après. Restez avec nous. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the chunk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that stuff ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yes, my mama, she told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bottom to the top. Yes, my mama, she told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, just go ahead. As you know. De retour à l'antenne de Radio Graphite pour la suite et la fin d'Expression Collective, l'émission de l'association Espace Citoyen. Aujourd'hui, j'ai un problème sur le titre de l'émission, je vous préviens, voilà, ça va être mon lapsus du jour. Expression Collective. Vous êtes avec nous toujours sur Twitter, hashtag ECUTC, si vous avez envie de réagir, de débattre, ou pas d'ailleurs. Il y a quelques minutes, on était sur cette histoire de la fusion. On parle tout de suite, on parle tout de suite du pôle ouverture sur le monde. Voilà, j'arrive à tout mettre dans le bon ordre. Ce pôle ouverture sur le monde, bien sûr, avec Nadia qui est là. Rebonjour Nadia.
Bonjour Guillaume.
Alors juste avant de partir sur ça, on va revenir sur un sujet d'actu. Vous savez, on présentait tout à l'heure en 30 secondes l'actualité. Moi, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de ce qui a fait l'actu de ces deux, voire trois dernières semaines. Petit extrait et j'aurai une petite réponse à apporter juste après.
Nous sommes un pays, la France, est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire
moi.
Non mais le mot, bah, c'est vous et moi, je suis désolée. 1, 2, 3, 4.
Alors voilà, on ne va pas entrer dans le fond du débat, bien sûr, parce que ça n'intéresse pas simplement Nadine Morano citer ici des propos du général de Gaulle. J'ai la citation entière et j'envoie cette lettre, ce message à Nadine Morano. Madame Morano, est-ce que vous assumez la citation jusqu'au bout ? Nous sommes, disait soi-disant le général de Gaulle, quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Quand on ne raconte pas d'histoire, les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas. Vous voyez que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se séparent de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que les corps français peuvent absorber 10 millions de musulmans. Voilà, en tout cas, c'est une citation rapportée dans un ouvrage donc, qui n'a pas été dite directement par le général de Gaulle. Nadine Morano, c'était une citation d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Mais est-ce que, si vous êtes gaulliste, vous l'êtes jusqu'au bout ? Je vous pose la question. Et il nous reste quelques minutes, vraiment pas beaucoup. Désolé Nadia, on fera plus de temps pour le pôle ouverture sur le monde pour que tu nous parles des partenariats. Moins de 3 minutes.
Alors justement, oui... Les partenariats, alors il se trouve que Espace Citoyen a commencé par faire un partenariat avec l'association Calam, qui, elle, est ouverte justement sur la culture arabo-musulmane. Donc on fait de la résistance, yeah ! C'est bien. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on avait travaillé avec Calam pour la collecte, dont on vous avait parlé la semaine dernière. Et du coup, on a décidé, disons, de vous proposer, en partenariat avec Calam, certaines... des activités qui vont être à coût réduit pour les étudiants et qui peuvent permettre d'ouvrir... Donc ça se fera pour d'autres aires culturelles également, évidemment. Donc il se trouve que le 23, il y aura un concert à la salle Saint-Nicolas, 3 rue Jeanne d'Arc à Compiègne. Donc c'est dans le cadre de la nouvelle année de l'Égire, 1437. Et ce sera des madis arabo-andalous, parce qu'il y a un brassage énorme entre la musique arabe et la musique andalouse, évidemment. Et ce serait l'occasion de découvrir cela. Donc c'est un concert avec orchestre pour 5 euros.
Un concert donc organisé en partenariat avec Espace Citoyen.
Il y aura également y a un autre événement qui pourrait intéresser beaucoup les UTCiens, les GSU, mais également tous les autres, qui va concerner la lumière et les technologies associées à la lumière. Alors pourquoi c'est en partenariat avec Calam ? Alors, ce sera un intervenant, un historien, qui viendra parler probablement au centre de transfert d'histoire de l'optique, puisqu'il évoquera le chercheur du Moyen-Âge, Ibn el-Haytham, qui, a dissocié... l'œil du rayon lumineux a étudié, a posé les premières bases de l'optique. Alors pourquoi ? Parce que l'année 2015 a été désignée par l'ONU lors de sa 68e session, année internationale de la lumière et des technologies fondées sur la lumière. Et donc ça, en fait, ça nous ouvre sur le monde sous un angle assez technologique, à la fois sociétal et proche de l'ingénierie. Voilà. Puisque ça ouvre sur le développement durable et les différentes façons de profiter de la lumière dans le monde.
Eh bien, merci beaucoup, Nadia, pour toutes ces informations du pôle ouverture sur le monde. Bien sûr, dernière info.
Alors, juste préciser que nous allons bientôt mettre à votre disposition aux philanthropes des revues pour continuer de vous ouvrir les yeux et le cœur. Donc, ce sera pour l'instant Cosette, Philomag et Néon.
Et ben voilà, beaucoup de lectures bientôt au Philanthrope, on vous en reparle. En attendant, certains journaux sont d'ores et déjà accessibles dans le SAS AB de l'UTC. Voilà, bon, petite musique, bien sûr, certains auront reconnu Laurence d'Arabie en fond, ça fait toujours du bien à mettre, même si c'est très cliché, hein, je suis très cliché. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis pour cette deuxième édition d'Expression Collective, la émission de l'association Espace Citoyen. On se retrouve tous les mercredis, tous les samedis, les horaires bien sûr sont sur le site de graphite.net parce que je ne les connais pas précisément. Voilà, et bien en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette émission. On pense à Elodie, Félix, Nadia, Arthur, Alexis, Malou, Nicolas et Pierce aussi qui est venu nous parler tout à l'heure, bien sûr. Merci à vous en tout cas. Vous pouvez continuer à réagir sur le hashtag ECUTC. Nous vous retrouverons donc très vite sur ces ondes dans 2 semaines très exactement. D'ici là, n'hésitez pas à commenter cette émission. Les musiques des jingles viennent de Ben Sound, c'est important de le dire. D'ici là, restez poète, amoureux, rêveur, impétueux, doux, charmeur, intrigué, amusé. Nous espérons que cette heure vous aura permis de voyager, de découvrir le monde et de vous amuser. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous sur les ondes de Graphite.